Bonjour, et nous sommes le 6 mai à la Société de recherche archéologique de Chauvigny, et nous allons entendre une conférence de Jean-Marie Augustin, professeur émérite de l'Université de Poitiers, qui concerne le clergé résistant dans la Vienne pendant la Seconde Guerre mondiale.
Alors, il faut savoir que est paru un ouvrage sous ce titre. Un ouvrage qui est l'œuvre d'une association qui s'occupe à la fois de la mémoire et de l'histoire, Vienne, résistance, internement, déportation. Et donc, un certain nombre de ses membres ont participé à la réalisation de cet ouvrage. Et je m'en fais le porte-parole ici. Donc, le clergé résistant dans le département de la Vienne. Tout d'abord, il faut parler de l'évêque. En effet, depuis 1934, le diocèse de Poitiers, qui comprend les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres, est dirigé par Édouard Mesguen. Édouard Mesguen, le voici donc en habit pontifical, et j'adore l'héraldique aussi, pu ainsi compléter par ses armoiries. Eh bien, en 1940, l'évêque donne l'exemple d'un loyalisme complet à l'égard du maréchal Pétain. Non seulement il considère l'État français, qui est dirigé à Vichy, comme le pouvoir légitime, mais il manifeste, sans le dire expressément, mais tout de même, il manifeste son hostilité au gouvernement du général de Gaulle à Londres. Quelques exemples. En février 1943, Monseigneur Mesguen encourage les séminaristes à partir au service du travail obligatoire, le STO, en Allemagne. Il se montre aussi sévère à l'égard des Britanniques qui ont bombardé Poitiers au cours de la nuit du 12 au 13 juin 1944. Et puis même, il va accueillir des miliciens qui ont fui Rennes après la libération de la ville le 4 août. Il faut dire aussi que Mesguen était breton. Donc, il a accueilli ainsi des miliciens bretons qui s'étaient réfugiés à Poitiers. Et encore, le prélat a présidé le 1er juillet 1944 en présence du Feldkommandant et de tout le gratin de la collaboration. Il a célébré un service funèbre à la cathédrale à la mémoire de Philippe Henriot, secrétaire d'État à l'information, qui avait été exécuté à Paris par la Résistance. Un historien catholique, qui était André Latreille, qui était du reste professeur à la Faculté des Lettres de Poitiers, André Latreille a un jour déclaré au cours d'un colloque en 1976, je cite, « J'ai été frappé à Poitiers de l'attitude de l'évêque qui avait été maréchaliste à un degré effrayant. Eh bien, cet évêque avait des curés qui étaient extraordinaires. La plupart des curés de Poitiers étaient au contraire d'une résistance et d'une audace héroïque que certains ont payé de leur sang. » Le membre du clergé diocésain, j'ai fait le compte par les annuaires, ils étaient 351 en 1940 et 331 en 1944 dans le département. On peut dire que ces curés ont eu, en général, même de façon presque totale, disons, ils ont eu une conduite digne, tout à fait honorable, pendant l'occupation. Alors c'est vrai qu'ils ne se sont pas mêlés de politique, mais tout de même, ils ont cherché à aider leurs paroissiens dans une période aussi difficile. Il n'y a qu'un petit nombre de prêtres du département dont on peut dire qu'ils ont été résistants. Il y a 47 prêtres séculiers, 7 séminaristes, ainsi que des religieux, l'abbé et 6 moines de l'abbaye de Ligugé, 3 dominicains, 6 jésuites du collège Saint-Joseph, de l'école apostolique et du cercle catholique des étudiants, et 4 pères de Picpus au grand séminaire. À cela, il ne faut pas les oublier, à cela s'ajoutent 5 religieuses qui ont rendu de très grands services dans les hôpitaux, les cliniques et aussi les camps d'internement. Il ne faut pas oublier le clergé protestant qui est représenté par Jean Rivière qui a été nommé pasteur à Poitiers en 1942. Alors, parmi les membres du clergé poitevin, au sens large, eh bien, il y a ceux qui ont adhéré à un réseau de résistance. Il y a aussi le curé de Caux, André Tété, qui a été aumônier du Maquis, dans le sud de la Vienne. Alors, je voudrais d'abord parler justement de ces membres du clergé qui se sont engagés dans des réseaux ou dans le Maquis, qui ont donc eu cet engagement patriotique, un engagement qui a donné l'exemple de la charité la plus haute et du parfait héroïsme. Cependant, la recherche historique, aujourd'hui, a une vision beaucoup plus large de la résistance. Notamment, les historiens qui, de la Seconde Guerre mondiale, entrent dans cette résistance, au fond, tous les actes oppositionnels qui ont été mis en œuvre, souvent de façon anonyme, de façon à réagir contre l'occupant. Simplement, ce sont des gens qui ont porté assistance à tous ceux qui étaient pourchassés et persécutés. Alors, ça peut prendre des actes dans tous les sens. Ça peut être de refuser d'exécuter les ordres. Ça peut être aussi l'avertissement d'un voisin ou même d'un inconnu de son arrestation imminente. C'est l'aide au franchissement de la ligne de démarcation, l'hébergement d'un réfractaire au STAO, d'une famille juive, d'un agent britannique ou de la France libre. Vous voyez, c'est une conception très large aujourd'hui de la résistance, beaucoup plus large que celle qu'on pouvait avoir dans les années qui ont suivi la libération. Donc après avoir envisagé donc cet engagement, cette fois dans les réseaux ou dans les maquis, j'aimerais aussi, dans ces actes de résistance, évoquer le franchissement de la ligne de démarcation. Je ne peux pas, évidemment, vous reverrez le livre sur le clergé résistant dans le département de la Vienne, pour que ça soit plus approfondi. Et puis, il y a aussi, je parlais des camps, eh bien, il y a aussi les secours qui ont été portés par le père Jean Fleury, un père jésuite, au camp de la route de Limoges, et par une religieuse, qui est Jeanne Scherrer, au camp de Rouillé. Mais auparavant, voyons donc cet engagement des membres du clergé dans les réseaux de résistance et les maquis. L'un des premiers réseaux de résistance qui a été fondé, on peut même dire en France, est celui qui a été créé à Poitiers dès l'automne 1940 par l'avoué Louis Renard. La principale activité du réseau Renard, ça a d'abord été, la plupart des réseaux ont commencé comme ça du reste, c'est l'aide aux prisonniers de guerre évadés. Et puis, en même temps aussi, il y a quand même une dimension supplémentaire, puisque le réseau va publier une feuille clandestine qui était le Libre Poitou, c'est-à-dire une feuille clandestine qui était ainsi distribuée sous le manteau pour montrer justement qu'il y avait déjà des gens ordinaires, hein, des gens qui sont de tous les métiers, et il y a des gens du clergé, donc des gens qui résistent à l'occupant et à Vichy. L'objectif aussi donc, de Renard, c'est de recruter un peu dans toutes les classes de la société, à la fois des commerçants, évidemment aussi des professeurs d'université, des étudiants, et aussi il va recruter des membres du clergé. Pourquoi ? Parce qu'il veut les mobiliser, il va, une vision quand même assez lointaine, les mobiliser en vue de préparer le terrain en quelque sorte le jour où il y aurait un débarquement de la part des Anglo-Américains. Et notamment, dans ce réseau Renard, il y a 11 ecclésiastiques. Il y a 11 ecclésiastiques. Le chanoine Henri Chollet, qui était le curé de Saint-Porchaire, dans le centre de Poitiers. Joseph Bressolette, qui lui était curé de Sainte-Thérèse. Alors, c'est à la périphérie, sur le plateau des Rocs. C'est peut-être à l'époque la paroisse la plus pauvre de la ville. Le chanoine Georges Duret, qui lui était professeur de philosophie au collège Saint-Sanislas. Le chanoine Émilien Leger, qui était directeur de l'œuvre des vocations. Et puis il y a aussi, pas seulement des curés des villes, il y a aussi ce qu'on appelle des soutanes vertes, c'est-à-dire des curés de campagne. Il y en a quatre. Fabien Billard, qui était le curé doyen de la Villedieu-Duclin, Daniel Bonin, qui était curé de Smarve, et donc, je les cite les deux plus importants, car ce sont ceux qui ont payé, et puis il y a aussi deux moines de Ligugé, dont Aimé Lambert, qui était bibliothécaire de l'abbaye, et enfin, un dominicain. Le réseau Renard a été démantelé en août 1942. 80 personnes sont arrêtées. La plupart sont libérées, dont les chanoines Chollet et Leger, ainsi que l'abbé Bressolette. Mais le 12 février 1943, 29 membres du réseau, qui étaient donc encore emprisonnés à la Pierre Levée, la prison, donc le chiffre de 29 sont déportés en Allemagne. Et là, vous en avez 9 membres du réseau Renard qui sont morts, déportés en Allemagne. Parmi eux, le chanoine Duret, le chanoine Georges Duret, donc qui est mort d'épuisement à la prison de Wolfenbüttel, en Basse-Saxe, le 30 novembre 1943. Trois jours après, Aimé Lambert, le bibliothécaire de l'abbaye de Ligugé, a été guillotiné avec Louis Renard et 8 autres membres du réseau à la prison de Wolfenbüttel. Et encore aujourd'hui, donc, cette guillotine est conservée dans les locaux de cette prison. L'abbé Bonin, le curé de Smarve, est décédé au camp de Nordhausen, en Thuringe, le 4 avril 1945, et l'abbé Billard. L'abbé Billard, donc, lui, a vraisemblablement est mort à la prison de Schweinitz, qui est aujourd'hui en Pologne, entre le 16 mai et le 13 octobre 1944. Donc voilà pour le réseau Renard, donc, qui comprenait déjà des membres du clergé. Mais il y a d'autres ecclésiastiques qui font partie de réseau de résistance. J'évoquais le chanoine Cholet, donc qui lui a été adhérent du réseau Renard, et ensuite le chanoine Cholet, curé de Saint-Porchaire, est entré dans le réseau Centuri, qui était dirigé par le colonel Rémy et qui entretenait des liens étroits avec l'OCM, l'Organisation Civile et Militaire. On a fait partie également de réseau, de ce réseau, le chanoine Boudret, qui était le curé de Saint-Jean de Montierneuf, un séminariste, Maurice Lepron, et un père de Picpus, qui était donc professeur au Grand Séminaire, Maurice Metzinger. Alors Maurice Metzinger a eu un destin assez important, puisque il a été certes d'abord arrêté en octobre 1943, il a été déporté de camp en camp en Allemagne, et jusqu'à celui de Dachau, où il a été libéré le 29 avril 1945. Et j'ai bien remarqué qu'il a été nommé évêque d'Ayaviri, alors c'est au Pérou, et il a été l'un des apôtres de ce qu'on a appelé la théologie de la libération en Amérique du Sud, cette théologie de la libération qui œuvrait pour que les opprimés, pour les pauvres, puissent avoir suffisamment de dignité et qu'on puisse les aider. Et l'un de ceux qui a commencé aussi à œuvrer dans cette théorie de la libération au Pérou, c'est évidemment le pape actuel, Léon XIV. Donc, voilà pour les membres, certains membres du clergé dans les réseaux. Mais je voudrais revenir sur le chanoine Boudret. Le chanoine Boudret, le curé de Montierneuf, il a été arrêté par la Gestapo le 22 juillet 1944, lui tout simplement parce qu'il avait tenu des propos anti-allemands. Il a été emmené au siège de la Gestapo, donc rue des Écossais, torturé au cours de son interrogatoire, et il racontera plus tard, je cite, « J'ai eu des menottes pendant une heure et les mains maintenues derrière à la hauteur des mollets, la tête en bas et mon honorable derrière à la hauteur convenable pour recevoir plusieurs bordées de coups de bâton. Quand il lui est reproché de dire publiquement du mal de la Gestapo, c'est pour ça qu'on l'avait arrêté du reste, il répond « Mort, on ne peut pas en dire du bien ». Et cette façon de répondre n'a pas été évidemment du goût des Allemands qui l'ont frappé encore plus fort. Et ils ont, et lorsque, sous les coups, il leur a dit « Est-ce le prêtre ou le français que vous frappez ?» Eh bien, les brutes lui ont répondu « Ce sont les deux que nous frappons, car nous n'aimons pas mieux le clergé que les Français. » L'abbé Boudret a été transféré au camp de transit de Royallieu, c'était le point de départ pour ensuite tous les camps de concentration à Compiègne. Mais le 14 août 1944, il a eu beaucoup de chance parce qu'il a quand même été mis dans la volière de départ, comme on l'appelait à l'époque, pour être transféré en Allemagne. Mais le train qui stationnait à quelques kilomètres dans l'attente de l'embarquement, on est en août 1944, ce train a été incendié par le maquis de l'Oise. Donc, il n'a pas pu partir. Et 15 jours après, le camp de Royallieu a été libéré. Le chanoine Boudret est revenu dans sa paroisse. Je parlais des protestants. Et il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, le pasteur. Le pasteur Jean Rivière, pasteur de l'église réformée rue des Écossais. Et il a écrit ses souvenirs, qui sont du reste conservés aux archives départementales, et il déclare qu'il a fait partie d'une section églantine Alors j'ai beaucoup de mal à retrouver cette section églantine, mais je pense que cette section églantine était rattachée à un groupe, j'ai trouvé dans un ouvrage qui est consacré à la résistance dans les Deux-Sèvres, et ce réseau était donc celui, un sous-groupe, si vous voulez, d'un réseau plus important qui était installé à La Rochelle vers le mois de juillet 1943 par Jean-Gilbert Foury, dit Edwin, et d'un réseau beaucoup plus important encore, international, puisque c'était un réseau franco-polonais, enfin polonais de Londres évidemment, et qui œuvrait aussi donc sur le territoire français. Et Jean Rivière était en contact donc dans les Deux-Sèvres avec Antoine et Auguste Quintard, le fils et le père, qui habitaient la commune de Chaix, c'est près de Mel. Et il les connaissait bien, puisque Rivière avait été pasteur dans le secteur de 1927 à 1937. Et Rivière donc récoltait des renseignements qui, écrit-il dans ses souvenirs, tenaient sur d'étroits papiers pelures que j'entreposais soit au plus creux de l'encyclopédie en 13 volumes, soit dans les porte-bougies démontées de mon vieux piano Cressel. Et il ajoutait, et c'est souvent le cas de tous ces ecclésiastiques et encore du pasteur, il ajoutait avec beaucoup d'humilité, cela c'était insignifiant et n'allait pas faire basculer la Wehrmacht. Et pourtant, le pasteur Rivière a reçu la carte de combattant résistant à la libération. Et maintenant, après les réseaux, je voudrais évoquer le curé de Caux, c'est-à-dire André Tété. En effet, André Tété, donc c'est dans le sud Vienne, eh bien, il a cherché d'abord à rejoindre la France libre à Londres, et il n'a pas réussi. Il a réussi à se cacher dans le nord de Deux-Sèvres, puis il est revenu dans sa paroisse. Et en juillet 1944, Ludovic Bonvalet, dit Anatole, chef des FTP, des francs-tireurs partisans, est venu le chercher pour qu'il rejoigne un maquis. Il était tout quand même convenu qu'il ne resterait pas parmi les FTP, parce qu'un prêtre dans un maquis qui était plus ou moins sous le contrôle des communistes, non, ça ne pouvait pas se faire comme cela. Donc il était convenu qu'il allait rejoindre un maquis de l'armée secrète, et c'est ce qui s'est passé. Donc il a rejoint le maquis Lagardère, qui était dirigé par André Bodinière, qui lui appartenait à l'armée secrète. Et là encore, la BTT a écrit ses mémoires, donc elles sont conservées aux archives départementales, et plus tard il écrira « Ainsi commença cette période du combat au maquis, merveilleuse, intraduisible, la vie commune avec des gars ardents qui avaient besoin d'un entraîneur comme leur chef et de la caution morale que je leur apportais. Coucher sur la dure, manger au hasard, se déplacer continuellement pour éviter les dénonciateurs et les encerclements, préparer les coups de main avec risque, mais calculé, limité, pour éviter toute perte. Le but était d'entretenir la crainte de l'ennemi et multiplier la présence par la mobilité. » Donc il a participé à des combats. Hein. Ce n'est pas un aumônier de l'arrière. Hein. C'est vraiment un aumônier qui était présent dans le maquis, dans les assauts, les escarmouches. Mais ça ne l'empêche pas de continuer sa tâche pastorale. Et il disposait d'un hôtel portatif, et avec cet hôtel, il a pu célébrer de très nombreuses messes, Il a aussi présidé les obsèques de nombreux maquisards qui avaient été tués au combat. Néanmoins, la présence d'un prêtre au sein d'un maquis, c'était pas toujours du goût de tout le monde, car parmi les maquisards, même ceux de l'armée secrète, il y avait ceux que mon père appelait des laïcards, non plutôt des bouffeurs de curés. Et notamment, il y avait quand même ainsi des laïcards parmi les féfi. Et un jour, la Gardère, pour le protéger, a lancé à la cantonade: si vous touchez au curé de Caux, je vous descends tous. Et tous savaient que ce n'était pas des paroles en l'air. En tous les cas, la BTT a été un curé de choc. On le voit du reste sur cette photographie. Et il est tenu en haute estime et il finit par être connu dans les milieux des maquis. Ça remonte jusqu'au colonel Bernard, c'est-à-dire Félix Chêne, Bernard étant son pseudonyme, qui était le chef des maquis de la Vienne. Et finalement, sur les instances de Bernard, l'évêque, pourtant il n'aimait pas le curé Tété, et c'était réciproque. Malgré tout, l'évêque a bien été obligé de nommer cet abbé Tété, il ne pouvait pas faire autrement. Il a essayé de trouver d'autres candidats, mais ça n'a pas marché. Et c'est l'abbé Tété qui a donc été nommé aumônier des maquis du Sud-Vienne. Et il a, à ce sujet-là, participé à la libération de Poitiers le 5 septembre 1944. Et du reste, c'est un personnage parce que le dimanche suivant, après la libération à Caux, la population s'était rassemblée devant le monument aux morts. Le monument aux morts qui était pavoisé aux couleurs des alliés de la France, du Royaume-Uni, des États-Unis. Et là, la BTT est revenue dans son presbytère et il a sorti un bout de tissu rouge qui évoquait donc le drapeau de l'Union soviétique et il l'a planté à côté des trois autres sur le monument aux morts. Et au cours de la messe qui a suivi la cérémonie, du haut de sa chaire, eh bien, il s'est fait plaisir, c'est-à-dire qu'il a fustigé tous ceux qui, simples quidam ou notables, s'étaient accommodés de l'occupation. Et à ce moment-là, il y a des paroissiens qui n'ont pas du tout apprécié, qui se sont levés aussitôt et qui ont quitté l'église sans même attendre la fin de l'office. Alors, l'engagement du reste de la BTT ne s'est pas arrêté au maquis. En effet, vous savez que ces maquis, après la libération, ceux qui l'acceptaient, les maquisards, étaient enrôlés dans l'armée et ils se sont battus sur la poche de l'Atlantique à La Rochelle, qui, n'oubliez pas, a été libérée seulement le 8 mai 1945. La BTT a suivi, c'est-à-dire qu'il a été aumônier de régiments sur le front de l'Atlantique et notamment en Vendée où il a multiplié les conférences pour ainsi préserver et continuer l'unité de la résistance. Je crois du reste ça a été l'objectif de toute sa vie. Il avait toujours ce souvenir de la résistance, on m'a raconté, après il a été curé de Johnny Clan, et il a vraiment toujours voulu ainsi maintenir cet esprit de la résistance qui, il faut bien le dire, après, avait largement diminué. Le 28 janvier 1945, il a été promu au grade de capitaine et il était membre du Front National. Alors, le Front National, à l'époque, c'est le réseau communiste, hein. Donc, il a été membre du Front National et ce qui lui a valu le surnom, évidemment, très vite, on lui a donné le surnom de curé rouge. Et même, il a participé comme représentant de la Vendée au premier congrès du Front National à la Maison de la Mutualité à Paris. Et quand il a pris la parole à la tribune, eh bien, il a été fortement applaudi. Du reste, après la libération de La Rochelle, le 8 mai 1945, il a participé, il a présidé des offices religieux dans tous les villages de l'Aunis pour fêter la libération, la liberté retrouvée. Et même si la libération était beaucoup plus ancienne, tout court que la poche de La Rochelle, c'était juste là. Et également aussi, il a célébré des messes dans les camps de prisonniers allemands pour ceux qui étaient catholiques. Il a été démobilisé le 8 juillet 1945. Il est revenu dans sa paroisse de Caux et plus tard, il a été nommé donc curé de Jaune-Éclan. J'en arrive à l'aide au passage de la ligne de démarcation. Alors, la ligne de démarcation, elle coupait le territoire français en deux zones et la ligne traversait le département de la Vienne, du nord-est au sud, à partir de Saint-Rémy-sur-Creuse jusqu'à Châtain. Et avec Christian Richard, vous savez que Christian Richard a écrit un livre sur la ligne de démarcation dans la Vienne, eh bien, nous avons compté 16 curés et une religieuse qui se sont fait ainsi passeurs de l'ombre en aidant au franchissement de la ligne. Alors, je ne vais pas vous raconter les 16, j'en prendrai 3 exemples. Tout d'abord, l'abbé de Légugé. L'abbé de Légugé était dirigé par Don Pierre Basset. Et on peut dire que, pas seulement pour la ligne de démarcation, l'abbé de Légugé a été un maillon important pour la résistance. Ils ont caché des enfants juifs, ils ont aidé des résistants, ils ont aidé au passage de la ligne, etc., etc., des prisonniers de guerre. Ils ont vraiment été au cœur même de la résistance. Et notamment, l'abbaye a servi de point de départ pour une filière d'évasion qui conduisait les fugitifs en zone non occupée. Et celui qui s'en occupait, c'était un des moines, qui était Paul-Désiré Fontaine, et il aiguillait ainsi ceux qui devaient passer en zone non occupée. D'abord vers Fabien Billard, dont je parlais tout à l'heure, enfin c'est tout au début cela, qui était donc le curé doyen de la Ville-Dieu, Pierre de Cour aussi, qui était le curé de Gizet. Il y a un exemple de ceux qui ont pu passer ainsi grâce à cette filière, c'est Robert Schumann. Robert Schumann, qui était donc par la suite, qui a été président du Conseil sous la 4e République, et Schumann était prisonnier en Allemagne. Et il a réussi à s'évader pour rejoindre Poitiers par le train. Et il est arrivé le 3 août 1942. Et ensuite, grâce du reste à la femme du préfet délégué de la Vienne et pour complicité du mari, Olweck, il a ainsi réussi. Il est allé à l'abbaye. Et où il a été reçu par Don Basset. Il avait besoin de se reposer, donc il est resté 10 jours à l'abbaye, sans que les autres moines de geste sachent, connaissent sa présence, hein, quand même. N'oubliez pas que la résistance est aussi le cloisonnement le plus possible, hein, il faut en savoir le moins possible, à l'extérieur. Et quand même, après ces 10 jours, il a quitté l'abbaye dans une voiture à cheval pour se rendre là directement au presbytère de Pierre de Cour, à Gizet. Et le curé a emmené Robert Schumann à pied vers une autre paroisse, c'était Chéret-les-Bois, c'est tout près, donc à pied. Donc ils ont fait le trajet tous les deux jusqu'à Chéret-les-Bois. Et là, ils ont rejoint, Schumann a rejoint un passeur qui, par la forêt, lui a ouvert la voie vers la zone non occupée. Et de l'autre côté de la ligne, le sous-préfet de Montmorillon, Rochefort, qui avait été mis au courant par écoute téléphone codé, eh bien, Rochefort l'attendait pour l'emmener à Montmorillon. Là encore, il a passé la nuit et Schumann a pu ainsi le lendemain prendre le train pour Lyon et il a continué du reste dans la résistance. Il a participé au comité Lorrain qui avait été mis en place en vue d'aider les réfugiés mosellans. Et la récompense, la voici. Le 17 avril 1948, Robert Schumann, qui était venu dans la Vienne, a donc remis la Légion d'honneur à Pierre Basset, l'abbé de Ligugé. Donc vous avez Schumann et l'abbé de Ligugé. Deuxième exemple. Alors le deuxième exemple, il a été raconté par Marthe Hoffnung. Marthe Hoffnung, c'était une jeune fille juive qui était réfugiée à Poitiers avec sa famille. Et en août 1942, lorsque commencent les premières rafles, la famille va quitter par le car, en deux groupes, elle va quitter Poitiers. D'abord, un premier groupe, Marthe, avec son père, ses deux sœurs et un jeune cousin, et ensuite sa mère et sa grand-mère dans un deuxième groupe. Et un contact avait été établi avec Christian de Chaunac, qui était le curé de Saint-Secondin. Alors Saint-Secondin, la paroisse et la commune donc, étaient à cheval sur la ligne de démarcation. Et lorsque elle arrive au presbytère, l'abbé lui dit, en la toisant de toute sa hauteur, « Je vous attendais, je vous aiderai, parce que c'est mon devoir. Mais mettons bien les choses au point. Les Juifs ne m'ont jamais inspiré confiance. » En lui rappelant l'Évangile, « Vous ne connaissez pas l'histoire de Judas ?» lui dit-il. « Je me méfie des Juifs. Ce sont des mouchards nés. Si l'un de vous est arrêté, il s'empressera de me dénoncer. » « Judas ? » rétorque Marthe. « Mais tout cela s'est passé il y a 10 milliers d'années. Qu'avons-nous de commun avec lui ? Et puis, comment pouvez-vous concilier votre terrible mépris des Juifs et votre foi basée sur les enseignements de Jésus que vous considérez comme le Fils de Dieu ? Ignorez-vous que Jésus était juif ? Alors le prêtre, il hausse les épaules et lui rétorque froidement « Je vous ai dit que je vous aiderai, j'obéis à ma foi chrétienne. » Alors effectivement, l'abbé de Chaunac, par devoir, mais il est antisémite, il fait quand même, vous voyez, c'est assez étonnant quand même, hein, il est antisémite, mais par devoir, il va quand même faire passer la ligne aux deux groupes, alors évidemment en prenant toutes les précautions, pour qu'ils puissent ainsi gagner la zone occupée. Je disais, il est antisémite, mais n'oubliez pas une chose quand même. N'oubliez pas que dans la tradition chrétienne, les églises sont des lieux d'asile, sont des lieux où les personnes menacées peuvent se mettre en sécurité et trouver de l'aide sous la protection du clergé. Même sous l'Ancien Régime, eh bien, les hommes du roi ne pouvaient pas ainsi pénétrer dans les églises. Et souvent, les églises ont pu ainsi aider un certain nombre de personnes qui étaient pourchassées. Donc, en quelque sorte, l'abbé de Chaunac se souvenait de cela. Et donc, il a aidé Marthe Hoffnung. Alors, Marthe Hoffnung, c'est quand même un personnage parce qu'elle a ensuite intégré les services de renseignement de la première armée française, et sous son nom marital, cette fois Marthe Kohn, elle a écrit par la suite un livre de souvenirs, c'est comme ça qu'on a pu en prendre connaissance, « Moi, Marthe, juive et résistante derrière les lignes ennemies », et le livre est paru en 2004, et un film documentaire a été tourné sur sa ville, s'appelle « Chichinette, ma vie d'espionne ». Et il est sorti dans les salles de cinéma en 2019. Marthe Ofnun Khan est décédée il y a 2 ans maintenant. Oui, ça fait bien 2 ans maintenant. Troisième exemple, Paul Guillon. Paul Guillon, le curé de Châtain. Alors là, on est à l'extrême sud de la Vienne. Hein. Il est curé de Châtain et en même temps, il dessert les paroisses de Pleuville et Alloux en Charente. Alors, Châtain est en zone occupée, mais Pleuville et Alloux sont en zone dite libre. Enfin, j'aime mieux dire zone non occupée, parce que c'est quand même pas la vraie zone libre. Hein. Bien, puisque c'est la zone de Vichy, uniquement par Vichy. Et l'abbé Guillon, va ainsi transporter, notamment en zone non occupée, des milliers de lettres cachetées. Vous savez qu'à l'époque, on ne pouvait pas écrire de courrier avec des lettres cachetées. Il n'y avait que des cartes interzone. Ben oui, il y avait la censure. Donc, les lettres cachetées, mais là, il y avait quand même des gens qui avaient besoin de donner des renseignements à la famille ou à des résistants, etc. Alors, il a fait passer des lettres cachetées, il a fait passer des colis, des mandats aussi, parce que l'argent aussi, ça compte. Et donc, en zone non occupée, parce que, ben, il disait, je vais faire mon service, hein, je vais faire mon service dans mes 2 autres paroisses en Charente. Et c'est comme ça qu'il pouvait ainsi passer très facilement. Puis après, finalement, les Allemands, les douaniers français, les Allemands surtout, qui étaient sur la ligne, ben, ils le connaissaient, donc ils le laissaient passer, ils ne le contrôlaient plus presque. C'était devenu presque des copains. Il le dit du reste. Hein. C'est des gens, il buvait avec eux. Je crois qu'il avait un petit... Je crois qu'il aimait bien le vin rouge, il en faisait partager aussi les Allemands, et comme ça, il les mettait en confiance. Donc, vous voyez la situation. Et il a fait évader des prisonniers de guerre, franchir plutôt des prisonniers de guerre évadés. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que le presbytère était en partie occupé par les Allemands. Vous savez que les Allemands, quand ils sont arrivés en 40, ils se sont pas gênés. Ils ont pris tous les bâtiments qui leur plaisaient. Hein. Au château, hôtel particulier, maison bourgeoise, et les presbytères n'ont pas fait exception. Donc, il fallait se serrer pour laisser des Allemands. Et c'était le cas à Châtain. Il avait des Allemands, et quelquefois, il avait en même temps les Allemands, et puis aussi des réfugiés. Mais il arrivait ainsi, donc, à ce que tout le monde puisse ainsi, je dirais pas, parler, ou du moins qu'il puisse ainsi loger dans les mêmes bâtiments. Et notamment, ce qui était aussi intéressant, c'est qu'à l'occasion d'un enterrement, il a fait passer la ligne à des fugitifs, bien tout simplement, parmi les gens qui suivaient à pied le cortège depuis Châtain jusqu'à Pleuville. Bon, ça fait 8 km. Bon, donc c'était tout à fait possible. Ainsi. Ah oui, moi j'ai encore connu ça. Hein. J'ai même connu ça ici. Hein. Quand mon grand-oncle est décédé, bon, on a suivi le corbillard, il n'y a plus de chevaux, mais on a suivi le corbillard jusqu'au cimetière sur la route de Poitiers. Hein. C'était un moyen comme ça. Mais il fallait évidemment que les gens ne... fallait se noyer dans la masse. Hein. Être déguisé en paysan, déguisé en ouvrier, voire quelquefois avoir un outil sur l'épaule pour qu'on ça fasse vrai. Hein. Pas pour l'enterrement, évidemment. Mais là, vous voyez, donc, à chaque fois, il fallait, quand on passait la ligne de démarcation, il fallait évidemment prendre des précautions pour ne pas se faire remarquer. L'abbé Guillon a été arrêté le 6 mars 1941. Il a été déporté en Allemagne le 2 avril à Karlsruhe et ensuite à Francfort pour aboutir à la prison de Dietz en Rhénanie-Palatinat. Et il a été libéré le 27 mars 1945. Alors, je rappelle aussi que la ligne de démarcation a été supprimée par les Allemands le 1er mars 1943, à la suite, quelques mois après, le débarquement en novembre 1942, le débarquement des Alliés en l'Afrique du Nord. Et en représailles, les Allemands ont occupé l'ensemble du territoire français, ou du moins la très grande majorité, un petit peu les Italiens. Donc il n'y avait plus de ligne de démarcation. Mais alors, vous savez, passer la ligne de démarcation, ça devait être un sacré soulagement, ça je comprends, pour les fugitifs. Oui, mais on avait la liberté, même si c'était l'autorité de Vichy. Mais encore, il y avait les Juifs. Les Juifs, n'oubliez pas qu'ils restaient sous le statut, hein, le fameux statut des Juifs de 1940, qui était discriminatoire. Et il y avait, il faut quand même le dire aussi, car on a l'air de dire aujourd'hui que Vichy a protégé les Juifs, certainement pas. Peut-être dans un premier temps, c'est vrai, on faisait la distinction entre les Juifs français et les Juifs étrangers, mais après, c'était le grand fourre-tout. Donc, il fallait malgré tout faire attention pour ne pas s'être conduit dans un camp d'internement, parce qu'il y a eu des camps d'internement aussi en zone non occupée. Alors, le plus dur était accompli, seulement aussi les fugitifs, ils devaient aussi, d'abord, fallait survivre, évidemment, en zone non occupée, il fallait continuer la route, il fallait trouver un logement, il fallait trouver des gens qui puissent aider ainsi à se loger, ou à se faire transporter, il fallait aussi se nourrir. N'oubliez pas que c'est la période de la pénurie, des cartes d'alimentation, etc. Donc, il n'en avait pas, souvent. Donc, il fallait obtenir de l'aide. Eh bien, là encore, le clergé a pu aussi obtenir l'aide de membres du clergé, notamment Émile Maître, qui était le curé doyen de Saint-Savin, Émile Maître qui recevait des réfugiés. Alors, il y avait une filière, c'est bizarre parce que ça remonte, qui lui était souvent envoyée par le chanoine Oga, qui lui était curé de doyen de Montmorillon. Et il y avait aussi un séminariste qui a écrit ses mémoires, c'est pour ça que je le sais, qui s'appelait Henri Moreau. Et Henri Moreau témoigne notamment de l'accueil par le chanoine Oga à Montmorillon, et aussi de l'aide apportée par le curé doyen de Saint-Savin. Et il dit aussi, ce séminariste, le père maître avait un courage fou. Il n'avait pas peur de dénoncer le régime de Vichy du haut de sa chair. Dans les différentes paroisses du canton où il se déplaçait, il fustigeait l'occupation et surtout la collaboration. Donc, il y a quand même, vous voyez, des curés qui ont réussi à dire ce qu'ils pensaient de l'État français et aussi de l'occupation allemande. Enfin, les secours portés par le père Jean Fleury et sœur Jeanne Scherrer dans les camps d'internement. Excusez-moi, hein, je vois qu'il y a une faute d'orthographe. D'internement. Les camps. Alors, tout d'abord, un camp a été créé, attention, il a été créé en 1939, le camp de la route de Limoges. Il a été créé à Poitiers, sur la route de Limoges, donc aujourd'hui l'avenue Jacques Coeur, pour accueillir les Tziganes. Eh oui, les Tziganes, nomades, on s'en méfiait, cinquième colonne, etc. Donc toutes les personnes, ce sont des personnes qui sont considérées comme dangereuses, donc on les a regroupées dans des camps avant la guerre, hein. C'est la troisième République encore qui donc a pu ainsi les regrouper en 1939. Le camp ensuite était vidé lors de l'invasion allemande en juin 1940. Et cette fois... Non, attendez, j'ai dit une bêtise. Je reprends. J'ai dit carrément une bêtise. Ça arrive, hein, trop vite. Je reprends. Le camp en 1939 a été créé pour les réfugiés espagnols, excusez-moi. Je suis désolé. Bon. Pour les réfugiés espagnols, en 1939, au moment de la guerre d'Espagne, donc il y a beaucoup de réfugiés, mais vous voyez, on ne veut pas non plus là, les laisser dans la nature. On va les regrouper et on va créer un certain nombre de camps ainsi. Donc c'est d'abord les réfugiés espagnols. Voilà. Mais il y avait quand même les Tziganes. Les Tziganes, toujours un peu suspects. Hein. Les Roms, les nomades. Hein. Donc, ils sont toujours un peu suspects. Donc, en 1940, on va vider le camp des réfugiés espagnols, qu'on va mettre dans d'autres camps, et on va y accueillir des tziganes. Cette fois, j'ai réussi à rétablir, excusez-moi. Donc, on a donc accueilli des tziganes au mois de décembre 40, français et étrangers. Et puis, à partir du 15 juillet 1941, cette fois, on va vider le camp des tziganes. Les tziganes vont être envoyés au camp de Montreuil-Bellay. Et là, ils vont y rester jusqu'en 1950, même après la libération. Hein, faut quand même s'en rendre compte aussi. Hein. Donc, ils sont partis de Poitiers. Et là, bien, on va donc accueillir des juifs. Et j'ai encore là des trucs. Donc, ils vont partir beaucoup plus tard à Montreuil-Bellay, excusez-moi. Les tziganes vont partir, c'est-à-dire que vous allez avoir des tziganes qui sont donc accueillis en 40, et en 41, vous allez avoir aussi des juifs. Donc, il y a des tziganes et des juifs au camp de la route de Limoges. Ouf. Mais attention, ils ne se mélangent pas. Il y a des clôtures, il y a une clôture intérieure à Barbelé. C'est-à-dire, vous avez sur la façade de la route de Limoges une partie administrative, le camp des tziganes et au bout le camp des juifs. Et qui sont bien, bien séparés. Tout cela est bien séparé. Et c'est seulement à partir de 1943 donc, que les tziganes sont transférés à Montreuil-Bellay, dans le Maine-et-Loire. Et là, lorsque les tziganes sont partis, ils vont être remplacés par des 186 femmes communistes, en grande partie, qui provenaient d'un autre camp, le camp de Mont, en Touraine. Et vous avez ainsi donc d'abord les réfugiés espagnols. On va vider le camp pour y mettre les tziganes. À partir de 1941, on y met aussi des juifs. En 1943, les tziganes partent à Montreuil-Bellay. Et on y met donc des femmes communistes. Voilà. Bien, voilà pour donc bon, les baraquements. Vous savez, je vous montre une photo. Ils sont à peu près tous pareils. Là, vous avez celui de Rouillé. Hein, c'est exactement sur le même modèle. Les baraques, donc cette fois au camp de Rouillé. Alors le camp de Rouillé, lui. Il avait été créé en septembre 41 pour y interner des communistes, mais aussi ce qu'on appelait aussi les indésirables étrangers. Il y a toujours des mots comme ça. Alors ça comprenait les Espagnols, les Russes, des Tchécoslovaques, des Arméniens, des Italiens, et ça, comme ça, vous voyez, toute l'Europe à peu près, qui se trouvait ainsi au camp de Rouillé. Pour revenir au camp de la route de Limoges, dont je vous ai présenté les camps, il faut évoquer la personnalité de Jean Fleury, le père Jean Fleury. Fleury a été nommé, il était d'abord directeur spirituel au collège Saint-Joseph, là où il y a aujourd'hui le palais de justice, et le 9 mai 1942, l'évêque l'a nommé aumônier des tziganes qui était interné au camp de la route de Limoges. Et là, il va être, il ne faut pas les oublier non plus, il va être secondé par des femmes bénévoles. Des femmes bénévoles, il y a Hélène Durand, Constance de Saint-Seine, qui était professeure au lycée de jeunes filles, Aline Pelletier, Suzanne Bourla, Pierrette Poirier et aussi Geneviève Lullier, qui était l'épouse d'un professeur à la faculté de droit. Alors, je vous disais qu'il y avait trois parties dans le coup de la route de Limoges. C'est-à-dire que la partie où étaient internés les Juifs était à l'extrémité du camp. Pourquoi ? Parce qu'on voulait que cette partie soit absolument isolée, fermée à tout contact avec l'extérieur. Et ça veut dire aussi que les Allemands, pour aller dans le camp des Juifs, devaient passer par le camp des Tziganes. Et cette situation a permis au père Fleury bien de voir. Il venait dans le camp des Tziganes, parce qu'il en avait le droit. Mais il a jeté aussi un œil au-dessus des barbelés pour voir ce qui se passait dans le camp voisin. Et là, il s'est rendu compte, notamment, c'est surtout les enfants qui l'ont frappé. Il a vu que les enfants juifs étaient encore peut-être plus malheureux que les petits nomades qui se trouvaient dans le camp Tzigane. Et là, avec leur complicité, eh bien, il a décidé, avec la complicité de Tzigane, il a décidé d'aider aussi les juifs. Comment ça se passait ? Eh bien, quand le père Fleury entrait dans le camp des juifs, les Tziganes faisaient le guet. Et dès qu'un Allemand arrivait, eh bien, il prévenait le père Fleury qui revenait dans le camp Tzigane et qui se cachait dans un baraquement, dans une baraque. Et là, tout le monde était tranquille parce que jamais les Allemands n'entraient dans les baraques par peur des poux et des épidémies. Donc, voyez-vous, le jeu qui se passait, les Tziganes faisaient espionner pendant que le père Fleury pouvait ainsi aider les Juifs. Et quand il y avait un danger, eh bien, le père Fleury réintégrait le camp Tzigane et se cachait dans les baraques. Alors, déjà, c'est une aide importante. Et puis, il y a aussi les rafles à partir de l'été 42. Et le père Fleury va décider de se mettre au service du rabbin. Le rabbin Elie Block. Le rabbin Elie Block, c'était l'aumônier officiel des communautés juives mosellanes qui avaient été évacuées dans la Vienne en septembre 1939. Je dis bien l'aumônier officiel des réfugiés mosellans juifs dans la Vienne. Pourquoi cela ? Eh bien, parce que n'oubliez pas que du point de vue des cultes, il y a un régime spécial encore aujourd'hui dans l'Alsace-Moselle, c'est-à-dire que encore aujourd'hui, les curés, les pasteurs, les rabbins sont les fonctionnaires, ils sont rémunérés par l'État. Donc, il occupait une position officielle, le rabbin Block. Hein. Il avait une position officielle et comme il était réfugié, n'oubliez pas que toute l'administration de Moselle était réfugiée en grande partie dans la Vienne, eh bien, donc, il avait auprès du régime de Vichy et même auprès des Allemands. Il était membre même de l'Union Générale des Israélites de France qui avait été créée par Vichy. Donc, il avait vraiment une position officielle. Oui, mais il ne pouvait pas entrer dans le camp juif. Il ne pouvait entrer que dans la partie administrative. Et c'était le père Fleury qui faisait le lien entre le rabbin Block et le camp israélite. Et donc, vous voyez le rôle qu'a pu occuper ce père Fleury. Et il faut dire que grâce aux jésuites et grâce aussi à l'équipe des femmes bénévoles, eh bien, le rabbin Block a pu ainsi déployer une activité considérable auprès de ses compatriotes. Et même, il y a une entente parfaite entre les deux aumôniers. Anecdote, un jour, ils sont en conversation dans la partie administrative du camp et il y a un SS qui est venu de leur côté et là, ils s'arrêtent médusés devant ce qu'ils pourraient appeler une collusion judéo-chrétienne. Comment ainsi un rabbin, un curé, peuvent-ils ainsi, même si Fleury n'était pas curé, enfin un prêtre, peuvent-ils ainsi se parler ? Et il leur dit, vous allez, il dit, il s'adresse au rabbin, il lui dit, ah, vous avez l'air d'être bien avec le curé. Et le rabbin lui a répondu, pourquoi pas ? Et le SS est reparti absolument étonné ainsi qu'il puisse y avoir une entente entre un juif, surtout un rabbin, et un prêtre catholique. Et après l'arrestation du rabbin Bloch et de sa femme et de leur fille, et leur déportation au camp de Drancy, eh bien, le père Fleury a continué à aider les juifs. C'était plus difficile, mais il a réussi quand même à le faire du mieux qu'il a pu. Quand même, ses agissements éveillaient quand même des soupçons et il a dû redoubler l'attention. Mais je crois qu'il avait aussi une certaine estime de la part du préfet régional. C'est très étonnant du reste, parce que Mesguen était breton, Fleury était breton et le préfet régional, Bourguin, était breton. Donc il y avait quelque chose qui les reliait les uns avec les autres, et malgré tout, il avait ses entrées à la préfecture, même si Bourguin a largement collaboré. Malgré tout, il a réussi ainsi à louvoyer et il a réussi à conserver ainsi, à ne pas être déporté. Si je passe au camp de Rouillé maintenant, eh bien, la personne dont je veux parler, c'est Sœur Jeanne Scherer. Sœur Jeanne Scherer, qui était une fille de la charité de Saint-Vincent de Paul. Moi, j'ai encore connu les cornettes dans mon enfance. On croirait qu'elle sort de la grande vadrouille. Mais c'était ainsi, donc. Sœur Jeanne Scherer, elle aussi avait une position officielle. Elle était l'assistante sociale qui avait été nommée par le préfet Bourguin, et c'est aussi du reste une réfugiée mosellane. Et elle était en même temps la représentante du Secours National Français, qui était l'officine de Vichy pour aider les prisonniers de guerre, les victimes de guerre, des bombardements, etc. Bon, au fond, c'était un organe d'aide sociale, et en même temps, elle était aussi déléguée de la Croix-Rouge. Donc elle avait vraiment une position importante. Et Sœur Scherer a fourni, par exemple, des vêtements aux prisonniers, des draps pour l'infirmerie. Même au-delà de ses fonctions officielles, elle se débrouillait et elle a prodigué généreusement des soins aux internés et elle essayait aussi d'améliorer leurs conditions de vie. Et son chauffeur, c'était Raymond Picard. Maxime, ça vous dit quelque chose, Raymond Picard? Raymond Picard, c'était le père de Roger. Roger Picard, qui a été le premier historien dans le département de la Seconde Guerre mondiale. Et avec son chauffeur, eh bien, elle ravitaillait le camp. Alors, des denrées de tout ça. Alors, c'est évidemment Raymond Picard qui l'a raconté à son fils, et ensuite le fils qui l'a rapporté, et des denrées alimentaires, je cite, du sucre, de la farine, des légumes secs, du fromage, de la confiture, de la viande, et même du vin, de la bière qu'ils étaient allés chercher à Montmorillon. Donc vous voyez, et durant le transport, eh bien, les denrées étaient cachées dans le double fond de la camionnette. Sœur Scherer fournissait à toutes les demandes, et aussi, elle a habillé une grande partie des internés, et puis en même temps, avec deux autres religieuses mosellanes, eh bien, elle s'occupait aussi de ravauder les vêtements qui avaient pu être déchirés, ou encore, elle raccommodait les chaussettes. Et quand les détenus ont voulu s'évader du camp, eh bien, elle leur procurait ce qu'il fallait, des vivres, du linge et des vêtements. Le camp de Rouillé a été libéré dans la nuit du 10 au 11 juin 1944 et Sœur Scherer a alors été nommée au camp de la route de Limoges et elle a continué son apostolat. Je vous disais qu'au camp de la route de Limoges avait été envoyé le 8 janvier 1944 des femmes qui étaient la plupart communistes avec des enfants. Elles sont arrivées au camp, donc en provenance du camp de Mont qui se trouvait en Touraine. Et lorsqu'il apprend ainsi l'arrivée de ces femmes, le père Fleury le dimanche suivant, va monter route de Limoges, ben, il veut faire leur connaissance et leur dire qu'il se mettait à leur disposition pour leur rendre service. Mais l'accueil a été glacial. Il a été très mal reçu. Pourquoi ? Parce que, évidemment, des communistes, hein, quelqu'un qui arrive en soutane, ben, faut comprendre un peu, hein, elles se sont méfiées, elles se sont mieux faites de cette soutane qui débarquait à l'improviste, dont je ne sais où. Il fallait quand même faire attention. Et ce n'est qu'à la troisième visite que le père Fleury a trouvé parmi les femmes communistes des gens qui étaient à peu près aimables, notamment les plus jeunes. Les plus jeunes qu'on appelait les bistouillardes. Les bistouillardes, alors, ça viendrait, le surnom viendrait de bistouille. Alors la bistouille, c'est dans le Nord un café chaud auquel on ajoute de l'eau de vie. Donc on les appelait les bistouillardes. Les plus jeunes ont été un peu plus aimables avec le père Fleury. Mais surtout, ce qu'ont fait ces femmes, c'est qu'elles ont réussi à envoyer des messages au Front National, à la direction du Front National, et pour savoir un petit peu qui était cet homme en soutane, qui était ce curé, comme on disait, donc, qui ainsi venait au camp. Et là, elles ont reçu des messages rassurants. On leur a dit qu'elles pouvaient faire confiance ainsi au père Fleury. Et à partir de là, il y a toujours eu des gens qui sont restés, des femmes qui sont restées méfiantes, mais enfin, les choses se sont un peu améliorées et une certaine sympathie a réussi à s'installer au camp entre les jésuites et ces femmes. Seulement, dans la dernière quinzaine d'août, dernière semaine même, la situation du camp de la route de Limoges a été de plus en plus préoccupante. Pourquoi ? Parce que d'abord, des Allemands qui étaient dans les routes à l'époque, les Allemands sont venus au camp au stade de Rebeillo, donc c'est juste en face. Et puis surtout, lorsque les Allemands sont partis, ils ont été remplacés par des Hindous. Alors les Hindous, il faut savoir pourquoi, tout le monde se demande pourquoi il y a des Hindous. Alors ces Hindous, effectivement, ils venaient de l'Inde ou du Pakistan actuel. Et ils avaient d'abord été enrôlés par les Britanniques, dans les troupes coloniales britanniques, pour se battre en Libye. Et ils ont été faits prisonniers. Et un certain nombre, les Allemands les ont retournés et les ont inclus dans la Wehrmacht, puis même parfois dans la SS. Et après, quand donc c'était terminé en Afrique, ces Hindous ont été amenés en Europe pour défendre le mur de l'Atlantique. Et les gens en avaient une peur bleue. Ils ont commis les pires atrocités, il faut bien s'en rendre compte. Incendiant les villages, pillage, encore c'est pas... Bon, c'est grave. Violant les femmes, tuant, etc. Enfin bref. Et les gens en avaient une peur bleue. Vous imaginez donc des Hindous au stade Rebeillo, des femmes au camp de la route de Limoges. Là, vraiment, la situation devenait de plus en plus préoccupante. Alors le père Fleury, ben, il a pris le taureau par les cornes et il s'est rendu à la préfecture. Et là, n'oubliez pas que le préfet, là, à ce moment-là, il a vraiment intérêt à se montrer coopératif. Hein. Et donc, le préfet a autorisé le père Fleury à déménager ses femmes avec les enfants jusqu'au collège Saint-Joseph. Et il faut bien se rendre compte de la situation, aidée par des gendarmes. Ces femmes et ces enfants ont défilé presque du camp de la route de Limoges au collège Saint-Joseph, à pied, au milieu des Hindous, protégés par les gendarmes. Hein? Donc, et quand elles arrivent au collège Saint-Joseph, même encore aujourd'hui, avec les grilles, elles ont dit « Ah, curé, tu nous as foutu encore dans une prison !» Et oui, elles ont eu très peur, mais en réalité, c'était pour les sauver. Et finalement, Bourguin a réussi, 3 jours après, il a signé des arrêtés permettant de les libérer. Et pendant ce temps-là, Sir John Scherer, toujours avec Roger Picard, avec sa Juve à 4, eh bien, ils ont transporté les bagages que ces femmes pouvaient, puis aussi de la nourriture, il fallait bien qu'ils puissent manger. Donc, Sir Scherer a aussi aidé pour qu'ainsi ces femmes puissent être libérées. Je voudrais dire aussi qu'en 1964, le père Fleury a été le premier Français à être nommé juste parmi les nations par l'État d'Israël, par le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. Et non seulement le père Fleury, mais plus tard, les deux professeurs du lycée de jeunes filles de Poitiers, les Durand et Constance de Saint-Saëns, ont également été nommés juste parmi les nations. Bon, voilà, donc, après avoir esquissé le parcours de ces résistants, alors, je crois que vous avez bien compris, c'est évident que dans le département de la Vienne, des membres du clergé ont participé à ce que les historiens appellent un front de résistance spirituelle, ce front de résistance qui a engagé non seulement des ecclésiastiques, mais qui a engagé beaucoup de chrétiens à dénoncer l'idéologie matérialiste du nazisme et aussi à réagir contre l'occupation allemande et contre le régime collaborationniste de Vichy. Je crois que vraiment, au nom des vertus chrétiennes, au nom aussi, je crois, par amour de la patrie, des prêtres, des séminaristes, des religieuses, le pasteur Rivière se sont engagés dans cette résistance spirituelle. Je n'oublie pas non plus le rabbin Bloch. Alors, huit prêtres du département ont été marqués dans leur chair et dans leur âme dans les camps de concentration en Allemagne par leur déportation. Et six prêtres ont été dans la Vienne victimes de la barbarie nazie. Ils sont morts pour la France. Merci.